Tendance RH en partenariat avec Jobsphérique.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tendance RH, l'émission qui décrypte toute l'innovation RH. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Leparc, fondateur du club Décidé RH, qui va aborder le militantisme RH. Bonjour Christophe.
Bonjour Christelle, ravi d'être avec toi cet après-midi.
Merci. Donc pour commencer, qu'est-ce que le club Décidé RH en deux mots? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as créé il y a quelques années déjà, 10 ans?
Eh oui, 2007, l'aventure commence à dater et on a fondé ce club pour réunir des décideurs de la fonction RH autour de problématiques qui les intéressent, avec une petite originalité, c'est de réunir des DRH d'un petit peu tous les horizons. Et donc, dès le départ, on est allé chercher des militaires, des gens de la fonction publique territoriale, parce qu'il n'y a pas que le CAC 40 qui a le secret de la réussite dans les projets RH. Et c'est intéressant d'aller attraper des petites recettes chez des gens un peu atypiques.
D'accord. Qu'est-ce qui fait votre ADN, vos valeurs?
Alors, dans les valeurs, il y a plusieurs choses. Le fait qu'il n'y ait pas trop de consultants, parce que les DRH sont souvent trop chassés sur les événements RH auxquels ils participent. Ils aiment aussi le fait d'avoir une diversité d'intervenants et une convivialité assez exacerbée qui caractérise pas mal Décidé RH, qui organise notamment le prix de l'humour RH, hein, qui symbolise bien les valeurs du club, où chaque année on remet à une personnalité le prix de l'humour RH au sens d'un décideur qui a les caractéristiques de l'humilité dans l'exercice de ses fonctions, de l'amour de son métier et des gens avec qui il travaille, et puis aussi de l'humour.
Alors, qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'un DRH est engagé dans sa fonction?
Il y a plusieurs choses. Avant tout, il faut qu'il croie à l'humain. Et dans cette période un peu de transformation, on sait que ce qui va faire la réussite de nos organisations, ce sont les talents dont on dispose dans une organisation. Donc voilà, il faut qu'il ait cette conviction que c'est l'humain qui fait marcher son organisation.
D'accord. Et puis quoi d'autre? Il n'y a pas un peu une posture de lobbyiste à avoir auprès des instances gouvernementales, auprès de tout ce qui se passe à l'heure actuelle, par rapport aux lois, par rapport à toutes les transformations? Alors, est-ce qu'ils prennent leur place finalement? Parce qu'on attend beaucoup d'eux depuis des années.
Ils devraient prendre plus de place et une place plus stratégique qu'il n'occupe aujourd'hui, que ce soit en interne. Hein, le DRH doit être au comité de direction et il doit être influent. Hein, il doit faire le binôme avec le président.
Mais est-ce que les directions veulent d'eux?
Il faut que les directions soient conscientes de son rôle. Et là, voilà, on en vient à une question de compétence du DRH dans son rôle d'influence et dans son rôle d'expertise. Pour les différentes fonctions qui sont autour de la table du comité de direction.
On les voit toujours un peu, on les imagine comme étant à la botte de la direction et en manque de leadership et de charisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Pour 70% d'entre eux, oui. Et pour 30%, non. Il y a encore des DRH qui jouent ce rôle de conseil et d'influenceur auprès du comité de direction.
Bon, c'est très bien que si le DRH n'applique pas la politique de la direction, il est licencié et gentiment remercié.
Tout à fait. Et on a au club un de nos membres qui défend la clause de conscience du DRH. Un petit peu comme
la clause de journalisme.
Exactement, hein, comme les journalistes, pour que justement ils puissent être beaucoup plus protégés et du coup influents auprès du président ou du CODIR pour dire la vérité.
Il y a des normes qui existent aussi au niveau international, sur tout ce qui est gouvernance aussi, hein, des normes RH. Est-ce que c'est une branche qui peut se professionnaliser comme une autre branche d'experts?
Alors, se professionnaliser sur certaines...
Quand j'entends professionnaliser de façon un peu normative.
Hein. Ouais, alors je ne suis pas fan, moi, de cette norme. Je considère que dès qu'on commence à mettre dans des boîtes, surtout l'humain, c'est un peu compliqué.
Mais puis, qui pourraient peut-être aussi être des garde-fous par rapport justement à cette posture de défense des hommes et des femmes dans l'entreprise et de la porter auprès de la direction peut-être aussi. Je ne sais pas, on creuse. Hein,
mais ça, ce n'est pas au travers de normes. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui protègent les individus et qui doivent être appliquées. Et après, voilà, il y a des employeurs exemplaires plus que d'autres sur certains sujets. Mais je ne pense pas que ce soit au travers de normes. où on se rend vite compte que voilà, il faut remplir un questionnaire pour répondre à ce qui nous est demandé. Et là, la réforme de la formation va solliciter les organismes de formation après DataDoc pour remplir, pour rentrer dans la norme de ce que souhaite le gouvernement. Mais ça peut aussi tuer la créativité. Et aujourd'hui, la créativité, c'est un petit peu le nerf de la guerre. C'est que pour, dans un marché où il y a une guerre des talents, les employeurs doivent imaginer la façon dont ils vont ambiancer leurs ressources humaines. Et donc, c'est attirer les talents qui conviennent, bien les former, les informer et les engager dans le projet de l'entreprise.
C'est-à-dire qu'ils doivent être chefs d'orchestre.
Tout à fait.
Et alors, comment faire pour faire monter en puissance, les faire monter un peu en puissance et développer leur leadership, leur charisme? Parce que ça dépend aussi des types de profils. On voit que maintenant, il y a une diversification des profils dans le recrutement de DRH. Comment faire pour que ce soit porté plus haut et plus fort, tous les sujets qui correspondent aux ressources humaines?
Alors, nous, on est convaincus que le DRH doit s'inspirer de la base et des collaborateurs. Hein, donc, il doit faire le duo avec les membres du comité de direction, il doit travailler avec les partenaires sociaux, mais il doit aussi s'inspirer de son corps social au sens le plus large. Et pour ça, voilà, que ce soit dans l'animation de focus group ou d'enquête, pouvoir récupérer de la matière du terrain pour mieux décider.
Déjà, il faut qu'il soit plus proche du terrain.
Exactement. Donc les bons DRH sont ceux qui sont proches du terrain.
Est-ce que la digitalisation aussi des processus RH va permettre de se concentrer sur une valeur ajoutée plus humaine et plus... Est-ce que c'est possible?
En tout cas, ça peut permettre de dégager du temps pour effectivement travailler ces sujets de développement des compétences de management qui sont primordiales aujourd'hui dans les organisations.
On parle beaucoup de management, d'innovation managériale. Mais qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'on tourne toujours autour du pot, finalement, et on en revient toujours aux mêmes choses.
Mais le management, il y a des fondamentaux. Il faut comprendre l'humain. Et pour ça, les formations doivent aider les managers à mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, à bien comprendre comment fonctionne une personne. Et ce n'est pas de la technique. Alors qu'aujourd'hui, les formations en management sont souvent techniques et pas trop sur l'appréhension de la personnalité humaine.
Et comment le DRH peut aujourd'hui aider ses équipes, ses managers, les lignes managériales à innover et justement à être plus à l'écoute alors?
Alors là, tu me poses une colle, même si on essaye, voilà, il faut écouter le corps social. Il faut sonder. Hein. Si j'étais ministre du Travail, je rendrais l'audit de climat social obligatoire tous les 3 ans. Et lorsqu'il est bien fait et qu'il est exhaustif, qu'on a 70% de répondants, tu as une photographie où le comité de direction, voilà, il n'a pas le choix que de l'accepter. Et on voit tout de suite ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça ne va pas bien, et qui donne des billes au DRH et au CODIR pour œuvrer.
Qu'est-ce que tu préconises au DRH aujourd'hui? Quels sont les axes de travail sur lesquels ils doivent se pencher en priorité?
Ils les connaissent, hein, mais voilà, c'est toujours cet adage d'avoir les bons talents et de les former et de les mettre au bon poste en fonction de leurs compétences, avec les bons managers, etc. Mais si j'avais par contre une envie pour cette prochaine décennie, ça serait plus qu'ils soient encore plus militants et plus engagés dans les réformes qu'il peut y avoir, notamment les réformes gouvernementales. Et je trouve que les DRH ne sont pas assez sollicités par nos gouvernants. Et donc, il faudrait qu'ils œuvrent un peu plus de lobbying pour que, quand les lois sortent, elles soient applicables.
Pourtant, il y a une DRH qui est ministre du Travail à l'heure actuelle.
Tout à fait. Muriel Pénicaud était DRH avant d'être ministre du Travail. Mais je crois que quand on œuvre dans ces organisations gouvernementales, on oublie un petit peu le terrain. C'est ce qu'on venait de dire à l'instant. Il faut être le plus proche du terrain. Et on voit aujourd'hui, voilà, il y a eu une réforme de l'épargne salariale. On a changé tous les noms des dispositifs d'épargne salariale. Je n'arrive pas à comprendre la raison qui a poussé le gouvernement a changé cette terminologie dont les salariés avaient déjà des difficultés à appréhender.
Ça, pour vous, ça manque de clarté, de transparence. On n'arrive plus à s'y retrouver. On rentre dans une complexité qui...
Voilà. Et le DRH doit être tout sauf prôner la RH-rie. Hein, c'est les RH pour les RH. Non, on fait des RH pour que les gens soient bien au travail, se sentent bien dans leur mission et soient performants.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu témoigner.
Avec plaisir.
Au revoir. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.
Tendance RH en partenariat avec Jobsphérique.